Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Nous pouvons affirmer que les trois piliers de la vie chrétienne sont la foi, l'amour et l'espérance. Dans la série que nous poursuivons aujourd'hui, nous réfléchissons au sens de ces trois qualités en nous penchant sur la première lettre de l'apôtre Paul écrite à l'église de Thessalonique. D'abord, Magali va lire les trois premiers versets de cette lettre et ensuite Diego nous rejoindre pour nous faire part de ses réflexions.
De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous, tout en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père.
Merci Magali et bonjour Diego. Bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann, bonjour à tous.
Actuellement, nous discutons du deuxième pilier de la vie chrétienne qui est l'amour.
Oui, et la dernière fois, nous avons fait une longue parenthèse pour parler surtout de l'amour passionnel et sexuel. Nous avons appris que l'apôtre Paul appelle le chrétien à s'abstenir de toute immoralité sexuelle, et ceci d'autant plus qu'il vit dans un contexte où la débauche sexuelle est malheureusement une réalité. Car selon les desseins de Dieu, la pratique des rapports sexuels doit se limiter au cadre seul du mariage. Aujourd'hui, nous revenons sur le verset 3 du chapitre 1 de 1 Thessaloniciens, où Paul remercie Dieu pour le travail de l'amour de ses croyants.
La dernière fois, nous avons compris que dans le grec ancien, plusieurs mots existent qui ne sont pourtant traduits que par un seul mot en français. Il s'agit du mot « amour ». Quel est le mot grec contenu dans ce verset?
Dans la langue grecque, il s'agit du mot agapé.
Et pouvez-vous nous rappeler quel est le sens du mot agapé? De quel genre d'amour s'agit-il?
Le mot agapé désigne l'amour qui consiste dans le don de soi. C'est l'amour qui vient en aide à son prochain, le soutient et le réconforte. C'est un amour empli de compassion, de grâce, de miséricorde et de générosité. C'est un amour désintéressé qui cherche le bien de l'autre, même aux dépens de ses propres intérêts. C'est un amour coûteux, un amour qui est prêt à faire des sacrifices.
On dirait que vous décrivez l'amour du Seigneur Jésus pour nous.
C'est vrai, Yann. Le Seigneur Jésus est l'exemple par excellence de l'amour agapé. Pour comprendre le sens de l'amour agapé, il faut contempler Jésus, se familiariser avec son vécu et son ministère, sa mort et sa résurrection, tels qu'ils nous sont présentés dans le Nouveau Testament. Nous apprenons ainsi que Jésus a eu compassion de toutes sortes de personnes, des pauvres comme des riches, des femmes comme des hommes, de ceux de son propre peuple comme des étrangers, des gens puissants et importants comme des gens oubliés et marginalisés. Jésus n'a convoité aucune richesse dans ce monde ni cherché à s'approprier une position de pouvoir, mais il s'est consacré à une vie de service telle que l'amour agapé le décrit. Jésus a agi pour aider ceux qu'il rencontrait sur son chemin. Il a guéri les malades. Il a délivré ceux qui étaient sous l'influence de mauvais esprits. Il a nourri les affamés, a pardonné à celles et ceux qui ployaient sous la culpabilité. Il a apaisé leurs peurs, apporté de l'espoir et a offert une vie nouvelle aux gens qui pourtant croyaient que c'en était fini pour eux. Puis, l'apôtre Paul l'a décrit dans sa lettre aux Galates chapitre 2 verset 20. « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Ces paroles ici signifient que Jésus nous a aimés au point de donner pour nous sa vie sur la croix. Il est mort en sacrifice suprême pour nos péchés, pour obtenir notre pardon et notre réconciliation avec Dieu, pour nous conduire sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Oui, Jésus avait nos plus grands intérêts à cœur. Et il a été prêt à mourir sur la croix pour que nous puissions vivre en communion avec Dieu. Oui, le sacrifice de Jésus-Christ est le plus grand amour et le plus bel exemple d'amour agapé. Le chrétien est appelé à suivre cet exemple d'amour, Nous sommes appelés à vivre cet amour agapé, là où Dieu nous a placés, et envers les personnes que Dieu conduit sur notre chemin. Les croyants de Thessalonique étaient bien connus pour leur amour agapé. En ceci, ils ont bien imité l'exemple du Seigneur Jésus. Sommes-nous, vous et moi, aussi connus pour notre amour agapé? Un amour marqué par la compassion, la solidarité, l'entraide et la grâce? Bien sûr, nous ne pouvons pas accomplir tout ce que Jésus a réalisé, mais nous devons, à notre échelle, faire ce que nous pouvons pour aimer les autres.
Merci Diego. Je note que lorsque Paul évoque l'amour du Thessalonicien, il associe avec le mot « travail », quand il écrit « le travail de votre amour ». En quoi ce détail est-il important?
Oui, ce détail est important. Il est là pour nous rappeler que l'amour agapé va bien au-delà des bons sentiments que l'on peut éprouver envers une personne. Car l'on peut ressentir de la compassion envers son prochain, et c'est déjà bien. Mais ce sentiment-là, seul, n'est pas suffisant. Notre compassion doit nous pousser à l'action. Elle doit nous conduire à vivre l'amour de façon concrète et appropriée. Oui, l'amour doit nous amener à aider efficacement la personne éprouvée. On peut dire que l'amour agapé, c'est la compassion à l'œuvre. C'est la volonté de faire quelque chose d'utile et de bon pour son prochain et de mener cette action de façon désintéressée. On peut conclure qu'aimer de cette manière représente un travail. Le mot « travail » implique un effort physique ou émotionnel, plus ou moins fatigant. Le travail demande du temps et de l'énergie, un investissement. Il en est de même lorsque nous nous engageons sur le chemin de l'amour agapé. Aider quelqu'un sérieusement implique parfois un effort physique et souvent un effort émotionnel. On donne de son temps, de son énergie et quelquefois de son argent. Oui, vivre l'amour agapé est coûteux et il peut nécessiter des sacrifices. Et parfois, un tel engagement peut devenir épuisant. Ainsi, en parlant du travail de l'amour, en ce qui concerne les Thessaloniciens, Paul reconnaît les sacrifices consentis par ses croyants qui suivent l'exemple de Jésus et cherchent à véritablement aider les personnes autour d'eux. D'ailleurs, Paul écrit un peu plus loin aux Thessaloniciens « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. » Notre appel à imiter Jésus nous incite à mettre en pratique cet amour agapé.
Merci de nous avoir ainsi éclairé. Si l'amour agapé représente un travail, il n'est pas forcément facile d'aimer ainsi.
J'en suis très conscient et j'espère n'avoir découragé personne en parlant de ce grand défi. Car parfois, on peut croire qu'être chrétien, c'est tout simplement jouir de la paix et de la joie vécue lors des moments de louange ou à l'occasion de rencontres fraternelles dans l'Église. Vivre de tels moments est une bénédiction. Mais nous sommes appelés à plus. Le chrétien est appelé à suivre Jésus et à imiter son exemple, surtout en ce qui concerne la mise en pratique de l'amour agapé.
Merci. Il nous reste quelques minutes. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'amour des Thessaloniciens?
Oui, l'apôtre Paul a écrit au sujet des croyants de Thessalonique dans sa deuxième lettre envoyée à l'église de Corinthe. En fait, Paul voulait que les chrétiens de Corinthe participent à une collecte qu'il organisait pour venir au secours des croyants de Jérusalem qui souffraient à cause d'une famine. Paul récolte donc des dons pour organiser une aide humanitaire et non pas pour s'offrir une voiture de luxe. Nous allons en écouter un extrait. Il s'agit des 5 premiers versets du chapitre 8 de la deuxième lettre de Paul à l'église de Corinthe.
Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu.
Merci. Il faut préciser que l'église de Thessalonique se trouvait dans la région de la Macédoine. Elle faisait donc partie des églises que Paul cite comme étant exemplaires. Je cite ces versets parmi d'autres pour illustrer l'amour agapé des Thessaloniciens.
Et qu'apprenons-nous de ces versets alors ?
Paul parle surtout de la générosité débordante de ces chrétiens envers leurs sœurs et frères d'une ville lointaine qui expérimentaient de très grands besoins humanitaires, particulièrement sur le plan alimentaire. Notons toutefois que les chrétiens de Thessalonique n'étaient pas riches et qu'ils ne jouissaient pas non plus d'une vie facile. Non, Paul nous rappelle que ces chrétiens à Thessalonique souffraient, ils faisaient face à une dure épreuve, la persécution. Paul nous apprend aussi que ces croyants étaient pauvres, et pourtant, ils ont entrepris tout ce qui était en leur pouvoir pour venir au secours de personnes encore plus démunies qu'eux. Paul affirme que sur le plan financier, ils ont fait de réels sacrifices pour sauver leurs sœurs et leurs frères en Christ à Jérusalem dans la détresse. De plus, ces chrétiens ont donné généreusement de leur propre gré. Ils avaient soif de le faire, soif d'aider. C'était leur choix. Ils n'ont pas donné à contre-cœur parce que Paul faisait pression sur eux, car Paul n'a jamais eu recours à la manipulation, comme peuvent malheureusement le faire certains pasteurs ou leaders dans l'Église. Non, ces chrétiens à Thessalonique ont insisté pour donner et pour prouver ainsi leur solidarité envers leurs prochains. Donc voilà, je voulais simplement citer ces versets en tant qu'exemple concret de l'amour agapé.
Merci, c'est un exemple très instructif.
Oui, d'abord c'est un exemple qui nous rappelle que même celles et ceux qui sont pauvres et éprouvés peuvent pratiquer l'amour agapé. Les personnes pauvres et éprouvées peuvent parfois se replier sur elles-mêmes. Certains sont même parfois tellement préoccupés par leurs propres soucis qu'ils en arrivent à ne plus penser aux autres. Toutefois, l'amour agapé est un amour qui se soucie de son prochain, tout autant que de soi-même. L'amour agapé se tourne vers les autres, il aide les autres, toutes les fois que cela est possible. Et l'exemple des chrétiens de Thessalonique nous montre qu'il est possible de surpasser ses propres préoccupations pour se préoccuper des autres. Ensuite, les versets lus nous rappellent que la solidarité et l'entraide chrétienne dépassent l'échelle locale. Elles ont une dimension internationale et interraciale. Les Thessaloniques étaient d'origine grecque et les chrétiens à Jérusalem d'origine juive. Normalement, les Grecs et les Juifs vivaient à part et ne se souciaient guère les uns des autres. Ce genre d'aide humanitaire envoyée de la part de chrétiens grecs et des chrétiens juifs était une nouveauté. Donc je conclus avec cette pensée. Il est du caractère de l'amour agapé de dépasser et de surmonter les préjugés et les barrières tribales, raciales, nationales ou autres. L'amour agapé va au-delà des différences pour simplement aider une personne en détresse.
Nous remercions Diego pour toutes ces leçons importantes. Il sera de retour la prochaine fois et nous continuerons à discuter de l'amour des croyants à Thessalonique. En attendant de vous retrouver, chers amis, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.